On sait parce que il va y avoir un feu qui va aller qui va aller à l'intérieur de l'air. Et donc, sur les apparences. Voilà. Donc, c'est Matthieu positionne l'arrivée de Jésus dans un contexte, je dirais, presque dramatique. Hein, dramatique, elle dit, attention, hein, la vérité va apparaître, une sorte de, va être dévoilée. Donc, ce Jésus arrive et il va commencer par prendre la parole et enseigner. Jean avait dit, convertissez-vous. Allez, changez de comportement. Faites vite, d'ailleurs, faites vite, parce que le royaume va arriver. Et là, les choses vont être très claires pour chacun. On va apporter de la lumière, et une lumière qui pourra être dramatique pour certains. Et ce Jésus arrive et commence à prendre la parole. Et une de ses premières paroles, ça va être les béatitudes, ce qu'on appelle les béatitudes. Ah oui, alors la dernière fois, mais je ne vais pas refaire hein, toute la séance que nous avons eue avec le groupe 3 sur les tentations de Jésus au désert. Et ces tentations, justement, concernent la domination, le pouvoir. Hein, sachant que ce qui va être le nouveau monde qu'il annonce, c'est un monde de sortie de la domination, hein, sortie de toutes les puissances. Alors, il commence par son enseignement. Il commence son enseignement par heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. On retrouve, vous voyez, le royaume, la terre qui est déclinée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Justice, sont rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, c'est une sorte de charte hein, qu'il donne. Alors, le terme de heureux, qui est traduit ici par heureux,
dans Chouraki, marque en marche.
En marche. Alors, parce que dans le terme hébraïque veut dire qu'il est dans la voie qui mène à la vie. Heureux, ce n'est pas une béatitude, enfin, je suis dans le bonheur, c'est cool, vous
C'est
voyez.
bien là, oui.
C'est pas ça. C'est heureux, c'est il y a l'idée de d'avancer dans un chemin qui mène à la vie. Donc, ce sont ces paroles, heureux, qui dit, en avant, vous prenez, faites votre chemin. Et ça sera justement tous les gens cabossés de la terre. Hein. Ceux qui sont pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui. Hein. Et non pas à l'inverse de ceux qui sont suffisants. Matthieu fera dans un chapitre plus bas, il y a un deuxième volet, parce que heureux, il y a malheureux. Et les malheureux, eh bien, ben on peut peut-être le lire, en chapitre 23, je pense. Alors Marc, lui, le met à côté. Mais alors, les malheurs, ça concerne ceux justement qui sont suffisants. Hein. À commencer par les gens religieux. Alors, oui, c'est assez long. Mais au chapitre 23. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. les scribes et les pharisiens qui siègent dans la chair de Moïse, les yeux, ils sont bien en face. Ben, écoutez, faites donc et observez bien tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient sur le peuple un pesant fardeau, parce que la loi, elle a des tas de détails, hein, il y a un grand nombre de règles et tout ça, et ça s'avère être assez pesant. Et bon, ils lient sur tout ce peuple de pesants fardeaux, et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du petit doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils élargissent leurs phylactères, allongent leurs franges, ils aiment occuper les premières places dans les dîners, les premières sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques et à s'entendre appeler maître par les hommes. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Frères, hein. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas appeler non plus docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur êtes-vous, scribes, pharisiens, hypocrites, vous qui barrez aux hommes l'entrée du royaume des cieux. Vous-même, en effet, vous n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui parcourez mer et continent pour gagner un seul prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites « si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas », mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, ah oui, ben là c'est bon, insensé et aveugle. Qu'est-ce donc qui l'emporte, l'or ou le sanctuaire qui a rendu sacré cet or? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande placée au-dessus, alors c'est bon. Aveugle, qu'est-ce donc qui l'emporte, l'offrande ou l'autel qui rend sacré cette offrande? Aussi bien, celui qui jure par l'autel, jure-t-il par lui et par tout ce qui est tenu. Ce qui est dessus. Bon, et ainsi de suite. Malheur êtes-vous, scribes, hypocrites, vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice et la miséricorde. C'est ceci qu'il fallait faire, sans négliger cela. Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le moucheron et avalez le chameau. Malheur êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli de produits de la rapine et de l'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez d'abord le dedans de la coupe, pour que le dehors aussi devienne pur. Malheur êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et d'impuretés de toutes sortes. Ainsi de vous. Au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur, scribes et pharisiens, vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Ouais, et ainsi de suite. Vous voyez, là, il est d'une sévérité terrible, sévérité envers ces gens qui tiennent, hein, qui ont l'autorité sur le peuple. Vous voyez, là, c'est l'autre valet heureux et puis malheur. Hein, et donc, il va y avoir entre ces deux, un jugement. Et alors, le jugement, ben, j'enchaîne, hein. Je vais vous lire le jugement qui s'appelle le jugement dernier. Là, je saute. je vous lis.
Quand... Isaïe chapitre 25.
25-31. Quand le Fils de l'homme, alors le Fils de l'homme, hein, c'est une expression qui à la fois regroupe toute l'humanité. Hein, c'est le Messie va être le Fils de l'homme, c'est l'homme par excellence. Hein. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » C'est ce royaume Israël, et qui est devenu le royaume des cieux et qui est préparé dans le dessein de Dieu depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors, les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ? Et de quand est-ce qu'on t'a nourri ? Quand est-ce qu'on t'a donné à boire ? Hein ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger ? Et de te recueillir nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade, en prison ? Ils n'ont pas souvenir d'avoir été voir Jésus en prison et de venir à toi. » Et le roi leur répondit, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parle pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et ne vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors, eux aussi, bonjour, mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, et sans venir t'assister ? Alors il leur dit, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils sortiront au châtiment. Voilà. Ouais, là, cette scène du jugement dernier qui est tout à fait une mise en scène. Hein, c'est une mise en scène. Dans cette mise en scène, elle est faite ce sont des images qui sont véhiculées. Hein, déjà, alors, il y a les anges, il y a le trône, tout ça. Mais l'enseignement, à aucun moment, le roi va demander quelle religion il est. Hein, est-ce qu'il est chrétien, catholique. Oui, la seule chose sur laquelle se fait le jugement, c'est dans sa relation aux autres. La relation. Donc là, le clivage va être radical. Radical, et c'est ça le jugement dernier. C'est par rapport à j'étais nu, j'étais en prison, Et non pas par rapport à la religion, parce que le premier groupe qui ont fait bien les choses, ils me disent, mais non, mais pourquoi tu nous dis ça? Nous, on ne te connaît pas. Hein? On n'est pas chrétien. j'essaie de vous dire les choses. Hein? On ne sait pas quoi. Hein? Oui, mais ce que vous avez fait, c'était ça. C'était là, vous êtes, on peut dire, chrétien dans le sens Christ. Hein? Parce que c'est les, hein? Et aux autres qui peut-être étaient chrétiens, hein, qui disaient, mais attends, si tu nous avais dit que le clochard du coin là qui fait la manche, si tu nous avais dit que c'était toi, Dieu, c'était Dieu, ah ben on aurait fait quelque chose, hein. Ça c'est sûrement, hein, on aurait fait quelque chose. Hein. Et voyez, là le clivage se fait complètement en dehors de la religion, hein, alors que les pharisiens s'approprient une appartenance sociale et religieuse. Voilà. Bon, donc, comme je faut que je m'arrête, c'est pour vous dire que l'enseignement de Jésus, l'arrivée de Jésus, cette notion de peuple, hein, de royaume, et donc le royaume, ça va devenir le royaume des cieux, le roi, ça va être alors, la tête, c'est là, alors après, se développer, à cette notion de peuple, on va substituer la notion de corps. On va faire qu'un seul corps. Hein. Ça sera décliné parce qu'on est tous différents, vient d'horizons culturels, sociaux, ethniques, d'horizons tout différents. Hein. Mais dans cet enseignement, la mise en œuvre de cet entêtement et de cette adhésion à l'enseignement de Jésus, hein, qui va nous transformer de l'intérieur, à ce moment-là, on va faire qu'un seul corps, dira Paul. Il va le développer très longuement dans ses lettres aux premiers chrétiens. Pourquoi la notion de corps se substitue à celle de peuple? C'est que la notion de corps induit une différence de tous les membres. Chaque membre, chaque cellule du corps, chaque membre a une fonction spéciale. Donc, alors que le peuple, dans la notion de peuple, c'est un petit peu tous ensemble sur un peu une même direction ou une même origine, une même croyance. Tandis que là, on est un seul corps, et ce corps, c'est la création d'un corps. Il y a une création qui est en mouvement, qui est actif, hein, qui se développe, qui grandit. Et ce corps doit grandir à la dimension de l'humanité tout entière. Hein. Donc, ça sera le corps christique. Alors, je fais forcément des très grands sauts, mais pour aboutir, toute la révélation doit aboutir à ce corps christique qui agit, hein, qui est en mouvement, qui vit. De la très grande diversité. Et donc la communion va se faire par du fait de ce corps. Donc la religion, elle, d'une certaine façon, elle va perdurer après l'enseignement de Jésus, hein, parce il y a toutes ces dimensions sociales, ethniques, vont perdurer. Donc, l'Église, qui va être la communauté des chrétiens qui porte l'enseignement de Jésus, va avoir des compromis, hein, parce qu'elle va s'inscrire dans l'histoire, se développer dans l'histoire. Il y aura la même dialectique qu'il y avait dans le judaïsme, les mêmes difficultés. Hein, et ben, on va la retrouver dans l'Église. On va retrouver cette dimension de pouvoir, de poste. Donc toute l'histoire de l'Église va être aussi de sortir, hein, de ces notions qui reviennent sans arrêt, de domination, de pouvoir. Mais pour certains théologiens, ils disent que l'enseignement, ce que je viens de vous lire, c'est la fin des religions. La fin des religions dans le terme de religion étant un ensemble de croyances qui ont une dimension sociale, avec un certain nombre de cultes, d'expressions cultuelles, et qui sont dépassées par l'enseignement de Jésus. Qu'après que ce corps, pour vivre, adopte adopte des rites, des rites pour faire vivre, parce que là aussi, hein, cet enseignement, j'ai dit, il va falloir le faire vivre. Et donc, on va adopter des rites. Et dans l'Église, ça va être le rite central qui se substitue au sacrifice, ça va être l'Eucharistie. Mais encore faut-il que ce rite ne devienne pas une idolâtrie, d'une certaine façon. Hein, qu'on ne retombe pas dans la magie cultuelle. Hein. Par contre, ce corps va se nourrir. Il devra se nourrir. Hein. Comme dans la manne. Alors, toutes les figures qu'on avait dans le passé, on va les retrouver. Hein, y compris celle du sacrifice. Alors, est-ce que j'ai encore 5 minutes pour parler justement de la clôture du sacrifice ?